Les troubles des comportements alimentaires, dont l'anorexie et la boulimie font partie, concernent 900 000 personnes en France, des chiffres qui ne cessent de s'accroître. Jeudi 2 juin se tiendra la journée mondiale consacrée à ces troubles. L'hôpital Purpan à Toulouse dispose d'un lieu d'accueil spécifique pour les adolescents anorexiques ou boulimiques. Notre invité ce matin en est l'un des médecins. Bonjour docteur Laure Mesquida.
Je vous remercie pour votre invitation.
Avec joie, merci beaucoup de venir nous alerter, nous informer. Cette situation, je le disais dans cette introduction, ne fait qu'empirer. Vous avez quelques chiffres, quelques études qui sont récemment sorties.
Oui, alors déjà on peut parler du nombre de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire au cours de leur vie. Cela concerne à peu près 8,4% des femmes et 2,2% des hommes, si on prend les troubles au sens strict, mais si on prend des formes moins sévères des troubles, on atteint un taux de à peu près 20% chez les femmes et de 14% chez les hommes. Donc c'est des taux très très importants. Mmh. Oui.
Et des chiffres qui ont augmenté à cause de la pandémie et de ces périodes de confinement successives.
Alors on s'est rendu compte, là les premières études sont en train de sortir, que la pandémie effectivement de Covid a augmenté considérablement le nombre de personnes atteintes de ces troubles. Et plusieurs hypothèses autour de ces questions. On peut se dire, en tout cas, on a l'impression que ce sont les adolescents qui sont le plus touchés, probablement parce que la pandémie qui a conduit les adolescents à revenir au domicile, se confiner auprès des familles, a engagé un processus qui est inverse à celui de l'adolescence, où les adolescents, traditionnellement, doivent sortir de leur domicile, rencontrer les pères, aller vers les enjeux de socialisation et de rencontres de l'autre et de la question de la sexualité. Et là, ils se sont retrouvés dans un mouvement qui les a ramenés vers l'enfance et donc qui a été probablement extrêmement difficile à vivre chez ces jeunes.
Et avec un enfermement. Alors parlons justement de ces adolescents, puisque vous vous en occupez plus spécifiquement. Et nous allons essayer d'aider ce matin les parents pour essayer de distinguer quels sont les signes qui peuvent alerter. Alors, parlons d'abord des risques, des signes qui peuvent alerter sur l'anorexie. Quels sont-ils?
Alors, si on prend les définitions de l'anorexie, on peut dire que d'abord, c'est une restriction alimentaire qui entraîne un poids qui est significativement trop bas pour l'âge de l'adolescent.
Un poids trop bas, c'est quoi? C'est 10-15%?
Alors, malheureusement, il faut regarder les courbes dans les carnets de santé pour prendre des repères. Mais quand les jeunes se retrouvent au-dessous des courbes, c'est un signe d'alerte. Alors, il peut y avoir être au-dessous de la courbe, casser sa courbe de croissance staturale, la courbe pondérale aussi. Et puis, il faut avoir en tête que pour un enfant ou un adolescent, le fait de ne pas prendre de poids est un signe de perte de poids, puisqu'ils sont censés être en croissance et grandir. Oui. Donc, il faut s'alerter aussi s'il n'y a plus de prise de poids chez un enfant ou un adolescent. Les autres signes sont la peur de prendre du poids ou la peur intense de devenir gros. Voilà, c'est typiquement des signes de l'anorexie. Et aussi une altération de la perception du poids et de la silhouette, c'est-à-dire des jeunes qui sont extrêmement préoccupés par leur corps, leur poids. Et qui ne se voient pas maigrir. Hein. Ou qu'ils se voient, mais qui ont le sentiment, si vous voulez, c'est une perception erronée, quoi, le sentiment, malgré la perte de poids, d'être en surpoids ou la peur de ne pas s'arrêter, de devenir gros.
Au niveau relationnel, au niveau du comportement, est-ce que dans l'anorexie, il y a aussi des signes qui peuvent alerter?
Alors, il y a d'autres signes, effectivement. Hein. Déjà, régulièrement, il peut y avoir une hyperactivité physique. Des jeunes qui se mettent à faire beaucoup de sport, de la course à pied, l'usage qu'ils peuvent en faire à titre personnel.
Là aussi, pour perdre du poids.
Voilà, pour perdre du poids. Un hyperinvestissement intellectuel, c'est-à-dire des jeunes qui peuvent se mettre à travailler énormément, à s'isoler socialement. Ça, ce sont quand même des signes d'alerte importants aussi.
Est-ce qu'il y a des points communs entre l'anorexie et la boulimie?
Alors, des points communs, oui, sur tous les troubles alimentaires, puisque bon, les grands troubles alimentaires sont au nombre de trois, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Alors, les points communs de ces troubles, c'est quand même des anomalies, des altérations de la prise alimentaire, si vous voulez, avec ce qu'on pourrait appeler des signes, des symptômes psychiques, également de la peur, de l'angoisse, de la culpabilité, de la honte, que ces trois troubles peuvent engager. Et une difficulté à réguler comme ça son alimentation. Il faut bien comprendre que ça échappe à leur contrôle. C'est pour ça que, d'un certain point de vue, L'anorexie peut être vue, par exemple, comme une addiction, hein, sans drogue. Mais il y a quand même l'idée d'une perte de contrôle de la maîtrise. Au début, on croit qu'on maîtrise.
Et après, ça échappe.
Voilà. Et après, il y a un échappement de ça. Et donc, ça échappe au contrôle de ces jeunes.
Puisque vous avez évoqué la boulimie, est-ce qu'il y a des signes qui sont différents et qui peuvent alerter les parents ?
Alors, les signes cliniques de la boulimie, c'est des crises alimentaires où il y a une ingestion d'une grande quantité d'aliments, avec le sentiment, et c'est ça qui est un peu au cœur de ce diagnostic, un sentiment de perte de contrôle des quantités ingérées. Hein. Et le sentiment qu'on ne peut plus s'arrêter, qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Dans la boulimie, ça vient aussi de ce qu'on appelle des comportements compensatoires, c'est pour éviter la prise de poids. C'est-à-dire, par exemple, de l'activité physique, des vomissements pour ne pas absorber toute la quantité ingérée. Et il peut y avoir des prises de laxatifs, enfin, tout un tas de comportements qui évitent, après ces crises, de prendre du poids. Mmh. Et il faut que ces troubles surviennent quand même régulièrement parce qu'on se rend compte que faire une crise de boulimie, ça peut arriver. Enfin, statistiquement, assez fréquent chez des adolescents. Mais là, il faut que ce soit une fois par semaine pendant à peu près 3 mois pour que le diagnostic puisse être posé.
D'accord. Inquiétude.
Donc, c'est une répétition.
Voilà,
ce qu'on voit aussi, c'est que ces jeunes ont une estime d'eux-mêmes très, très perturbée et qui est très en lien avec la forme que prend leur corps.
Oui, alors, et particulièrement à l'adolescence où le corps change et se modifie. Alors, même si des personnes adultes ont des troubles, des comportements alimentaires, les adolescents sont principalement concernés. Pourquoi ? On l'a dit il y a 2 secondes, à cause de ce changement du corps, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons ?
Alors, vous l'avez dit, le changement du corps, c'est quand même un impact majeur, probablement dans l'émergence de ces troubles à l'adolescence, c'est-à-dire l'arrivée de la puberté, la transformation très rapide, brutale du corps, mais aussi donc sur le plan biologique avec les hormones qui arrivent, et puis statique, physique, il prend une forme différente, on ne sait pas vers où il va aller, il y a une perte de contrôle. Vous voyez, des fois, on peut voir les troubles alimentaires comme une tentative de retrouver un peu du contrôle sur ce corps, sa vie, qui se transforme, qui échappe peut-être aux jeunes à certains moments, et qui suscite beaucoup d'angoisse et d'appréhension sur le chemin que va prendre ce corps. On peut se dire aussi que la puberté, ça engage un processus qui est plus large que juste une transformation du corps et une transformation hormonale, qui est l'adolescence, c'est-à-dire comment je vais devenir un adulte, quelle identité je vais pouvoir acquérir en tant qu'adulte. Et tout ça suscite un processus qui est complexe, et notamment de mettre à distance l'enfant qu'on a été, avec l'idéal de cet enfant dans la tête des parents, que c'est représenté l'enfant pour lui, l'acceptation d'être un peu différent, de prendre un chemin différent. Et tout ça, ça engage beaucoup de deuil et de perte pour passer ce processus. Et puis, devenir un adulte, c'est-à-dire quelle identité je vais prendre, quel adulte je vais être, comment je vais me dépatouiller des relations sociales, amicales, est-ce que je vais me débrouiller dans la sexualité, est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un, quel adulte je vais être. Bon, voilà. Tout ça, c'est énormément de questions. Qui font que, alors on parle souvent de la crise de l'adolescence,
oui.
Mais qui font que ce processus de l'adolescence est complexe et entraîne des mouvements qui peuvent susciter comme ça beaucoup d'inquiétude. Et c'est vrai que souvent ces troubles qui émergent quand même à la période d'émergence, notamment de l'anorexie, de la boulimie aussi, qui émergent à cette période, sont probablement aussi une tentative de répondre à ce stress, de contrôler ce stress.
À cette inquiétude, oui.
Voilà, et de reprendre une maîtrise alors, au niveau du corps. Alors c'est vrai qu'au début... le fait de maîtriser son alimentation, alors dans aussi des enjeux peut-être sociétaux qui sont une société qui valorise la minceur, la performance.
Oui, hein. Et puis les réseaux sociaux ont leur part aussi de responsabilité dans cette transmission d'image parfaite d'un corps soi-disant parfait.
Idéal. Et donc c'est vrai que ces idéaux derrière amènent ces jeunes à tenter de prendre un peu de contrôle sur ce corps, sur ces enjeux, et puis rapidement ils se font dépasser et c'est l'alimentation.
La dégringolade.
Qui vient les contrôler.
Vous travaillez, docteur Mesquida, depuis 11 ans à la clinique de l'adolescence rattachée à l'hôpital Purpan. Votre expérience vous permet-elle d'affirmer que les parents ne sont pas responsables des troubles des comportements alimentaires de leur enfant ?
Alors oui, ça, je crois que c'est vraiment un point majeur dans l'accompagnement des patients qui traversent ces troubles et des familles qui les accompagnent et qui sont les meilleurs alliés d'ailleurs, hein, des jeunes qui traversent ces troubles. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée que les parents, les familles vont être ceux qui vont être au plus près du jeune ou de l'adolescent et qui vont pouvoir au mieux les aider, les accompagner, qu'il n'est pas question qu'ils soient terrifiés envahis de culpabilité, d'idées de retrouver un fautif, un coupable, et notamment eux, hein, c'est souvent les parents qui les premiers se remettent en question. Ils sont très, très angoissés, malmenés hein, par ces troubles. Parce que c'est quand même aussi très difficile quand on est parent de voir son jeune faire du mal. Se faire du mal, vous voyez ? Parce que c'est un trouble auto-infligé et ça, c'est extrêmement difficile pour un parent de se dire que son enfant met en place un comportement qui va être destructeur pour lui. Hein. Donc il faut effectivement énormément accompagner les parents, travailler avec cette culpabilité qui est, je pense, quasiment toujours présente hein, chez les parents, pouvoir les soutenir et puis qu'ils se rendent compte que leur présence, leur soutien, leur accompagnement est fondamental auprès du jeune.
Et alors pour autant, ils ne sont pas là pour soigner leur enfant. Alors, quelle juste attitude avoir, que dire, que faire, et à l'inverse, que ne pas dire et ne pas faire, parce que c'est quand même très délicat comme situation.
Alors vous posez une question épineuse à laquelle il est difficile de répondre en quelques minutes. Mais oui, alors que dire, que faire? Alors déjà, je pense qu'il faut se dire que c'est un partenariat entre les soins et les familles. Et je crois que si on le voit comme ça, les choses sont quand même beaucoup plus faciles, puisque effectivement, la place du soignant, c'est pas la place du parent, mais la place du parent, elle est fondamentale et j'allais dire quasiment prioritaire auprès du jeune, hein, puisque c'est lui qui le connaît le mieux et c'est lui qui peut le plus mobiliser ses ressources, ses compétences pour fournir un cadre sécurisant, repérant, qui va permettre au jeune de le plus possible de s'appuyer sur ce cadre pour sortir de ses difficultés. Hein. Sans avoir, et c'est ça qui est peut-être très difficile pour les familles, parce que c'est des troubles qui s'inscrivent souvent dans une durée.
On en sort au bout de combien de temps d'une crise d'anorexie?
C'est difficile, hein, tous les cas sont possibles. Il y a des jeunes qui en sortent au bout de quelques semaines, très rapidement, ils sortent d'un épisode et puis il y avait un mouvement comme ça qui s'était amorcé, qui va s'amender très vite. Mais il peut y avoir des jeunes qui sont dans des troubles qui vont s'inscrire sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Donc il faut tenir dans la durée.
Voilà, là c'est un marathon pour les parents, pour les familles. Et il faut pouvoir s'inscrire dans ce temps, pas se décourager, savoir que même si on passe plusieurs mois ou plusieurs années dans ces troubles, on peut en sortir, la guérison est toujours possible. Mais par contre, qu'il va falloir aussi que les parents prennent soin d'eux, prennent soin de la famille, prennent soin de la fratrie, puissent se préserver un réseau social, des temps d'activité extérieure, vous voyez, puissent continuer aussi de leur côté à tenir, à souffrir des espaces aussi autres que d'être envahis autour de ces troubles, parce que c'est vrai que ce sont des troubles qui peuvent absorber entièrement les familles.
Hein. Et cette maladie peut isoler justement la famille par rapport au monde.
Peut isoler. Et puis c'est vrai que la fonction qui est atteinte, c'est-à-dire l'alimentation, le repas, elle est au cœur du fonctionnement social de la famille. C'est souvent au moment des repas qu'on se réunit. Mais aussi au niveau sociétal, on se réunit pour faire un repas, on s'invite à manger. Donc quand vous avez un
surtout
enfant,
surtout dans notre culture française.
Et oui. Donc quand un enfant rencontre ces troubles, c'est extrêmement perturbant au sein de la famille, mais aussi au sein de la famille élargie. Hein. Et donc c'est vrai qu'il va falloir négocier des espaces pour chacun, pour la fratrie, pour les parents, pour qu'ils puissent préserver ce réseau social, qui va être fondamental aussi pour que eux puissent tenir et accompagner l'enfant sur la durée.
La famille, vous le disiez, hein, elle est en première ligne, elle accompagne, elle a besoin de lieux où se ressourcer. Est-ce qu'elle a aussi dans l'accompagnement qui est prévu pour les jeunes, est-ce qu'il y a une petite attention pour eux?
Alors, vous avez raison d'en parler, je pense que ça c'est un point très très important. Les familles, elles peuvent être accompagnées à plusieurs niveaux. Déjà, il existe des associations. Alors à Toulouse, on a la chance d'avoir l'association ABO, Anorexie Boulimie Occitanie, qui est une association qui fait un travail considérable hein, auprès des familles, des proches de patients atteints de troubles alimentaires et qui peut aussi rencontrer des personnes souffrant de ces troubles. Et notamment qui fait aussi un énorme travail à l'heure actuelle dans le contexte où on est extrêmement dépassé au niveau des possibilités d'accueil, d'orientation, d'accueil, d'écoute téléphonique, enfin voilà. Et ça, ce sont aussi des associations qui peuvent proposer des groupes de parents voyez, où ils peuvent se réunir, partager et se soutenir entre eux. Et ça, je crois que c'est très important.
Voilà, on terminera sur, de vous couper sur cet accompagnement proposé, cette écoute de l'association AB Occitanie avec un site www.aboccitanie.fr. Merci beaucoup, docteur Laure Mesquida, pour vos précieux conseils.
Merci à vous.